요리는 마음을 비치는 거울이야.
RPH déroule le tapis rouge à la 61e rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Bastian Meyerson, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté de passer quelques instants en compagnie des auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
C'est un enchantement.
Vous figurez sur la liste des invités de la 61e édition des rencontres cinématographiques de Pézenas.
Tout à fait.
Et on vous a confié le soin de présenter une dizaine de films en tout sur la durée de la rencontre. Vous êtes journaliste, auteur, directeur artistique, maître conférencier, programmateur, réalisateur.
Rien que ça, oui.
Beaucoup de fonctions.
Énormément de fonctions.
Vous n'avez pas limité le nombre de celles-ci au service du cinéma. Par contre, vous avez quand même cerné le champ de vos investigations, à savoir que vous êtes spécialiste du cinéma asiatique.
Exactement. Alors je déteste toujours qu'on me dise spécialiste, parce que je ne serai jamais spécialiste, même pas le jour de ma mort. Je serai loin d'en avoir fait le tour, mais je suis passionné en tout cas. Et j'ai de la chance d'avoir fait de ma passion un métier, ou des multiples métiers, comme rien ne paye vraiment. Je suis obligé de trouver tout ce que je peux en lien avec le cinéma asiatique, et d'où en fait tous ces mots-clés qui embêtent beaucoup Pôle emploi lorsque je dois cocher des cases, parce que je n'en rentre dans aucune.
Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a amené au cinéma asiatique ?
Ça c'est une première question extrêmement longue, je vais essayer de faire court.
Vous avez 25 minutes.
Elle sera plus courte, je vous rassure. En très gros, dans ma tendre jeunesse, j'avais un père qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup en route de par le monde, qui était un geek, notamment dans tout ce qui concernait la technologie. Et un jour, il a ramené ce qu'on appelait un lecteur Betacam. C'était le concurrent de la VHS, de la cassette vidéo de l'époque. Ça venait du Japon. On a galéré pour trouver les câbles nécessaires pour brancher la bête sur une télé. Avec celle-là, il a ramené donc ce qu'on appelait des cassettes Betacam. C'était des classiques du cinéma japonais. Je me rappelle toujours en son absence d'avoir eu le droit de regarder le soir avec ma mère ces films. Donc je pense que je lis un petit peu le souvenir de ces heures passées avec ma mère qui m'a raconté en fait ce qui se passait à l'écran, et puis d'avoir été subjugué dès le départ par la beauté, ces rythmes particuliers, des choses auxquelles je ne comprenais pas forcément grand-chose, mais auxquelles j'étais sensible. Et pour finir, la petite anecdote réelle derrière tout ça, c'est qu'un jour, je revus des années plus tard, en fait, l'un des films qui était de Kurosawa, et l'histoire n'avait rien à voir avec ce que m'avait raconté ma mère. Et donc, je cours la voir, je lui dis, mais voilà. Il m'a dit, mais tu ne pensais quand même pas sérieusement que je comprenne le japonais, en fait, j'inventais au fur et à mesure ces histoires. Et c'était pire que d'apprendre que le Père Noël n'existe pas, et d'ailleurs, il n'existe pas apparemment, mais j'y crois quand même. Mais voilà, je n'avais jamais remis en cause le fait que ma mère ne sache pas parler le japonais. Comme j'étais élevé bilingue, je pensais que c'était la meilleure maman du monde qui parlait couramment toutes les langues du monde. Et donc voilà. Et par la suite, j'ai toujours cherché d'autres films du Japon dans un premier lieu. Puis est arrivé le cinéma hongkongais. C'était la fin des années 80, le début des années 90. Et c'est le fil en aiguille que j'ai eu j'ai toujours cherché à découvrir davantage de pays aussi, à m'ouvrir. Quand j'allais en voyage en Thaïlande, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Cambodge, à chaque fois, je ramenais avec des valises pleines, non pas de souvenirs, mais des cassettes vidéo, puis des VCD, puis des DVD, puis des Blu-ray. Donc voilà, j'ai des milliers de films qui, pour la plupart, ont disparu depuis. Mais voilà comment est née cette passion. Puis un jour, je me suis dit, peut-être que je pourrais en faire quelque chose, je pourrais le monnayer, tout ce savoir, en fait. Et voilà, c'est dur de joindre le debout, mais au moins, je suis dans la transmission. Ça n'a pas de prix à donner un tout petit peu quelques savoirs de ce que j'ai pu tirer par ailleurs.
Vous maîtrisez les langues de ces différents pays, ou au moins Une ?
Alors, non, aucune couramment. J'ai des bribes de Bahasa, donc c'est l'indonésien. J'ai des bribes en japonais, thaïlandais, coréen. Mais aucune couramment. Mais j'ai jamais cherché à approfondir, en fait. Soit j'étais toujours entouré de traductrices et de traducteurs, ou alors je fais parler celle qui est la primordiale, universelle, le langage du cœur. Et en fait, ça marche pas mal, vraiment, quand on est sensible. Je crois beaucoup en la sensibilité. Et puis, je ne pourrais jamais entretenir une discussion sérieuse avec des Asiatiques autour de la politique, etc. Mais ce n'est pas ça ce qui importe. C'est plus des moments partagés avec des mots qu'on comprend sans les comprendre dans le sens littéral. Ça, c'est vraiment chouette.
Le cinéma coréen a davantage pris de place dans votre recherche par rapport au cinéma asiatique. Et pourquoi plus particulièrement si c'est le cas celui-là ?
C'est une très belle question parce que j'ai découvert le cinéma coréen tout à fait par hasard à la fin des années 90, au début des années 2000, où je commandais énormément de VCD à l'époque, donc c'est l'ancêtre du DVD chez les Asiatiques. Et j'ai commandé énormément de VCD à Hong Kong. Et puis un jour, je suis tombé sur 2-3 films qui ressemblaient à du cinéma hongkongais mais qui n'en étaient pas. Et il n'existait pas encore vraiment beaucoup d'Internet, donc c'était très dur pour avoir les informations. Et j'ai découvert quand même que c'était du cinéma coréen. Je me suis dit, ça m'interpelle, ça, je vais creuser un peu par là. Et encore une fois, vraiment, j'ai pu accéder aux premières informations au début des années 2000 avec la multiplication des sites Internet et des forums. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres fous dingues de cinéma asiatique comme moi. Et j'ai découvert qu'il existait un cinéma coréen. Et je m'étais dit, je me rappelle encore très bien, jamais, jamais je vais approfondir le cinéma coréen. J'ai déjà assez à faire avec les autres pays dans lesquels je suis en train de faire des recherches, etc. Puis finalement, ça m'a rattrapé, c'est devenu tendance. On m'a demandé d'accompagner de plus en plus de films coréens. Donc je me suis renseigné, j'ai lu des histoires. Et puis, des fils en aiguille, là encore, il y a une personne qui était attaché au Centre culturel coréen de Paris, qui m'a dit « Bastien, avec tout ce que tu racontes là pendant des heures sur scène, pourquoi ne pas en faire un livre ?» Et c'est comme ça que le livre est né. Et là, j'ai dû vraiment me plonger, puisque c'est une monographie de 1903 à 2023, donc je n'ai plus pu y échapper, et j'ai dû apprendre tout, quasiment tout sur le cinéma coréen.
Vous avez co-signé une dizaine d'ouvrages, mais Ali Wood, puisque c'est le titre, Ali Wood, le cinéma coréen, c'est vous qui l'avez entièrement écrit et conçu.
Exactement, c'est pas un recueil collectif, comme j'ai pu en participer à d'autres ouvrages comme ça. Non, c'est vraiment mon premier bébé. J'avais écrit un livre sur le réalisateur Imamura Shoei, qui n'est pas un très bon livre d'ailleurs. Bref, c'était mes premiers pas. Donc non, là c'est vraiment ce que je considère être mon premier ouvrage. Et après, il s'appuie sur plus de 25 ans de découverte de cinéma coréen. En tout et pour tout, j'ai vu plus de 4000 films coréens et puis j'ai fait traduire des milliers de pages pour approfondir vraiment tous ces aspects. Il n'existait pas encore de monographie aussi exhaustive, donc c'est vraiment, on va dire, 2 ans de recherche exhaustive et 1 an d'écriture 24/7 pour accoucher de ce petit bébé d'un kilo 380.
On connaît Hollywood, on connaît Bollywood. Mais pourquoi Hollywood ? Hollywood, ça veut dire quoi ?
Oui, Hollywood. Alors c'est un titre un peu particulier. Je l'ai utilisé sciemment pour faire un produit d'appel parce que ça parle à quelques personnes qui sont un peu familiarisées avec les cinémas coréens. Hallyu, à la base, c'est un terme inventé par les Chinois à la fin des années 90 pour tenter de définir cette espèce de vague déferlante de produits culturels coréens. Qui sont d'abord arrivés par la Chine avant d'envahir, on va dire, mais dans un sens absolument positif, toute l'Asie. Donc ça ne concernait pas seulement le cinéma, mais aussi la K-pop, donc la musique, la littérature, puis dans un deuxième temps, la nourriture, les vêtements, les voitures, les portables. Donc voilà, donc disait Hallyu. Mais spécifiquement, ça ne concerne que le cinéma ou les produits culturels dès ces 25 dernières années. Donc voilà, donc je me suis dit, ah, les vrais connaisseurs vont m'en faire le reproche d'avoir intitulé Hollywood, alors que finalement je passe en revue toute l'histoire. Mais pour moi, la vague, c'est quoi une vague ? C'est une vague, on parle toujours là de la partie émergée en fait, celle qu'on voit. mais on oublie toujours celle qui est sous l'eau, celle qui vous entraîne en fait, c'est le tourbillon qui crée ce qui est à la surface. Donc je trouvais ça assez cocasse de jouer sur le mot et de faire exploser les premières impressions et les idées préconçues, puisque c'est ce que j'ai fait tout au long de mon ouvrage, je n'arrête pas d'exploser des idées préconçues, en disant voilà, Aliou, je le prends en sens littéral du terme, c'est une vague, c'est un tout, et si on définit toujours le cinéma coréen comme étant celui des 25 dernières années, eh bien à travers cet ouvrage, je raconte celui depuis les débuts, donc la vague en entier, et Wood évidemment, parce que je joue autour de Hollywood, Bollywood, Nollywood, enfin il y a plein de Wood, mais c'est ça aussi ce qui fait une grande spécificité du cinéma coréen, c'est qu'il est profondément influencé par tout un tas d'influences étrangères et pas seulement américaines, donc c'est un gloubi-boulga finalement, mais que la Corée a su mieux qu'un tout autre pays asiatique en fait à assimiler pour en faire un produit très spécifiquement local. Voilà, voilà Hollywood.
Hollywood, le cinéma coréen, a obtenu en 2023 le prix du meilleur album français, Histoire de la Corée et son 7e art, prix décerné par le syndicat français de la critique du cinéma. Une reconnaissance de votre travail, je suppose.
Ouais, alors je me permets de vous corriger, c'est effectivement...
Corrigez.
Je l'ai obtenu en 2024, en fait, la semaine dernière, le 12 février. En fait, c'est le prix du meilleur album de cinéma français édité en 2023. Voilà. Mais il a été remis ce prix la semaine dernière, donc je suis encore sur un petit nuage, je ne réalise pas du tout. Après voilà, je suis extrêmement content parce que ça va permettre de donner encore une plus grande visibilité, mais beaucoup de gens m'ont dit tu dois être extrêmement heureux toi, être sous le feu de la rampe, etc. Et c'est un peu tout ce que je déteste, c'est avant tout un travail collectif quand même, il y a énormément de gens qui m'ont aidé là-dedans, donc je suis surtout content pour tout cet effort collectif et d'avoir cette récompense, mais voilà, mais il représente quand même énormément de choses, surtout par le syndicat français de la critique du cinéma, c'est des bons, je les adore.
Je savais dès 2023 que ce prix vous serait décerné en 2024.
Wow.
Bon, vous dites du cinéma coréen que c'est un cinéma d'une incroyable diversité.
Tout à fait.
Il a traversé des crises et des périodes de créativité superbes.
Tout à fait.
Vous dites aussi qu'il a inventé des genres, des esthétiques qui lui sont propres.
Tout à fait.
Vous pouvez vous en expliquer.
Non, pareil, je l'ai aussi écrit cet ouvrage pour dire que le cinéma coréen n'existe pas seulement depuis ces 25 dernières années avec les titres que l'on cite très régulièrement, Old Boys, The Host, Memories of Murder, plus récemment Parasite, évidemment, qui est un peu le couronnement, justement l'année du centenaire du cinéma coréen, ça a été très peu relevé par la presse, mais c'est quand même extrêmement symbolique pour les Coréens. Et donc voilà, donc il est beaucoup plus riche puisqu'il existe depuis 1919. Et après, je mets toujours en garde par rapport à ce qu'on pourrait voir en France en cinéma coréen. On a de la chance de voir débouler du cinéma coréen, mais ça va être quoi ? 3, 4, 5 films par an au cinéma sur les plus de 400 qui sont produits là-bas. Donc finalement, c'est très peu représentatif. Souvent, ce sont des productions, des coproductions avec de l'argent français dedans. Donc c'est des films qui sont formatés entre guillemets pour un public festivalier avec quelques éléments clés de ce qu'on sait qui vont satisfaire un public étranger et pas forcément local. Et puis après, dans ce qui sort dans la niche, que ce soit sur les plateformes de streaming ou en VOD, c'est souvent cantonné à certains genres qu'on sait qui ont marché. Le polar, des films un peu plus extrêmes, ou alors des comédies romantiques, parce que ça marche bien sur les plateformes de streaming. Puis je dis attention, en fait, il y a aussi des drames de famille, il y a aussi tout un tas d'autres genres, en fait. C'est aussi éclectique le cinéma français, finalement, mais ça, on en voit très peu, et ça peut être intéressant comme totalement ratée ou totalement inexportable parce que c'est uniquement prévu et compréhensible par un public local. Mais donc je dis attention, il y a un certain éclectisme et je suis extrêmement content de la programmation de la 61e rencontre à Pézenas parce que justement la formidable équipe de programmation a veillé à montrer cette diversité. Cet éclectisme dans les genres, que ce soit par des réalisateurs ou des réalisatrices, dans un rythme, dans du cinéma commercial comme plus pointu. Donc voilà, donc, c'est justement un très très bel échantillon déjà par rapport à ce qui pourrait exister. Et par rapport à votre dernière remarque, oui, c'est encore une fois, même si ce cinéma a puisé dans énormément d'influences qui justement nous raccrochent. Nous permettre de nous raccrocher à des balises repères, des thématiques en fait, à des thématiques universelles, eh bien on aime aussi le cinéma coréen parce qu'il y a quelque chose de spécifiquement local. Parasite, finalement, c'est l'histoire universelle du clivage des classes, quelque chose qui se creuse de plus en plus, cette avidité ou envie des classes moins bien lotis qui aimeraient être à la place des riches, donc ça nous parle tout de suite. On pense à Zola, on pense à Flaubert, enfin je veux dire, ça existait de tout temps. Donc on peut s'accrocher à ça et en même temps, ça raconte une histoire foncièrement coréenne. Là aussi, ça se passe, mais il y a des gestes, il y a des paroles, des comportements qui ne sont absolument pas universels, qui sont vraiment liés à la culture coréenne. Et voilà, c'est ça ce qui fait toute notre fascination et la réussite du cinéma coréen actuellement.
Parasite, dont la qualité a été saluée par le Festival de Cannes, il y a peu de temps.
Effectivement, il a été cocorico, il a eu la Palme d'Or, mais bon, les Américains, eux, ils disent d'abord, nous avons reconnu la qualité parce que nous lui avons décerné 4 Oscars, et puis il y a en Argentine, il a eu des prix, ils vont dire, nous avons su déceler la qualité. Non, ce qu'il faut retenir, malgré le fait qu'évidemment, il a remporté la Palme d'Or, donc c'est quand même une fierté nationale, c'est que c'est un film qui plaît partout dans le monde, qui cartonne, qui a du succès, et c'est assez incroyable, quoi. C'est un film universel alors qu'il est coréen.
Le succès remporté par Parasite ne doit pas cacher la diversité et l'inventivité des autres productions de cinéma coréen.
Oui, tout à fait. Il sert des locomotives parce qu'encore une fois, c'est la consécration suprême avec la Palme d'Or et les 4 Oscars. Voilà, c'est le couronnement suprême pour l'instant. Après, et ce n'est absolument pas contre vous, je m'amuse toujours de la redécouverte en fait des médias. En fait, rien que sur les 20 dernières années, il y a eu quand même des succès, des paliers de succès consécutifs. Il y avait Ivre des femmes et des peintures qui avait drainé plus de 500 000 spectateurs. C'est l'un des plus grands succès encore dans les salles. Ça avait fait énormément de bruit. Puis quelques années ont passé et tout d'un coup, on a découvert Old Boy. Puis quelques années ont passé et tout d'un coup, on a redécouvert le cinéma coréen en disant « Ah, oh, il y a The Chaser. Oh, il y a du cinéma coréen. Il y a Dernier train pour Busan. » Donc ça m'amuse en fait parce que non, c'est dans une continuité. Et c'est là encore une autre clé du succès du cinéma coréen, c'est que depuis une vingtaine d'années, il n'arrête pas d'accoucher des chefs-d'œuvre qui marchent un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas avec d'autres pays asiatiques, comme la Thaïlande par exemple, où il y avait tout d'un coup plusieurs films sélectionnés à Cannes, on en parlait, mais depuis plus rien. Et d'autres pays, quoi. Donc, c'est vraiment entretenu. Et puis, il y a tout le phénomène des séries aussi, où les séries coréennes étaient parmi les plus téléchargées illégalement. C'est très mal de faire ça, mais voilà, il faut, parce que ça n'existait pas, et surtout par des jeunes. Donc, quand on regardait, moi, j'avais fait des études en 2010-2011, et les premières séries téléchargées illégalement, c'était Games of Thrones, c'était Walking Dead, et après, arrivaient les séries coréennes. Les médias n'en parlaient pas du tout, où ils avaient une balayée. Et ça d'un revers de la main, c'est un petit phénomène, ça ne rime à rien, etc. Et là, il cartonne. Netflix investit plusieurs milliards pour investir dans ces séries, pour faire de la production, etc. Donc c'est vraiment soutenu et c'est quelque chose de durable et c'est absolument fascinant. Donc là, il y a eu Parasite. Bon, maintenant, ça fait déjà 5 ans. Il est sorti en 2019. Depuis, c'était compliqué, mais il y a eu le Covid, etc. Mais je suis sûr qu'il y a un prochain Parasite à débouler très, très, très rapidement.
L'histoire de la Corée n'a pas été un long fleuve tranquille. Cette péninsule a connu beaucoup de déboires, de vicissitudes à travers les années passées, les siècles passés. Ça a influencé la production cinématographique ?
Oui, dans un bon et un mauvais sens. Effectivement, le cinéma est né sous occupation japonaise. La Corée, alors encore unie, a été occupée de 1890 à 1945. Ça n'a évidemment pas facilité l'essor, puisqu'ils étaient sous un contrôle extrêmement strict. Il y avait une censure. En même temps, lorsqu'on regarde de près, on voit qu'il y avait des réalisateurs qui voulaient absolument créer une industrie, qui cherchaient des moyens pour contourner cette censure. Donc il y avait cette énergie, même si c'était extrêmement compliqué. Et puis dans les décennies à venir, malheureusement, il y a eu la guerre de Corée, il y avait l'occupation américaine, ensuite deux dictatures ou régimes militaires successifs de 61 à 89. Donc pareil, qui dit dictature ou régime militaire, dit forte censure en fait. Donc il y a un cinéma qui a existé, mais il fallait toujours aller contre quelque chose. C'est cette énergie-là qui est incroyable et qui a fait, là encore, le succès du cinéma coréen, parce que lorsqu'il est véritablement né, ou lorsqu'il y a eu le renouveau à partir de 1997, pourquoi il y a eu des chefs-d'œuvre sublime à cette période-là, comme je l'ai cité déjà avant, Memories of Murder, Joint Security Area, The Host, parce qu'il y avait une génération qui a explosé littéralement, qui avait des choses à raconter, qui avait une envie totalement folle, qui s'est un peu perdue depuis, parce que maintenant ça ronronne un petit peu, les studios ont fait une nouvelle mainmise, on va parler d'une autre dictature, en fait, quelque chose. Mais il y a encore cette énergie, je la sens aussi chez les jeunes. Et puis il y a un nouveau cinéma émergent en Corée, c'est celui des femmes. Elles doivent se battre encore contre beaucoup de dictats, à commencer par l'emprise des hommes. Voilà, c'est encore une société très patriarcale, mais elles en veulent. Et elles ont fait des études, elles commencent à accéder au cinéma. Et il y a là encore cette énergie à vouloir, à devoir prouver, mais à vouloir créer et à raconter des histoires inédites d'un autre point de vue avec d'autres sensibilités, donc c'est génial.
Je vous ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle censure qui s'imposerait actuellement par rapport à celles qui ont existé précédemment à l'occasion de régimes dictatoriaux qui ont pu sévir en Corée. C'est qu'elle est de quelle nature ? Économique ?
Non, oui, c'est foncièrement lié à l'économie, mais en fait, ça va être alors déjà l'autocensure, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont encore taboues dans la société, qui ne peuvent pas être abordées, etc. Donc ça, c'est la pire des censures pour moi, l'autocensure. Et après, il faut vraiment comprendre que, en fait, l'industrie cinématographique coréenne actuelle est entre les mains de quatre grands studios qui sont omniprésents. Et qui ont en plus la main mise sur les réseaux des salles. Voilà. Contrairement aux États-Unis, par exemple, où dès les années 50, justement, l'État a adopté une loi comme quoi les grands studios hollywoodiens n'avaient pas le droit de posséder les réseaux de salles, bah, les quatre studios, en fait, ils ont 90% des écrans. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont produire leurs films qu'ils vont mettre sur leurs écrans et ils vont se...
chercher le plus grand nombre de spectateurs.
Exactement, avec leurs affiches. Et puis, ils laissent très peu de place à toute production un petit peu indépendante ou étrangère, en fait. Et c'est très bien, en même temps, c'est un combat de coq, donc ils surenchérissent dans quelques blockbusters totalement attendus. Et ils ne laissent plus aucune place à la créativité artistique. Et ces studios sont malheureusement très souvent liés au pouvoir actuel. Donc ils guident un petit peu, c'est quasiment du cinéma de propagande un peu déguisé, avec des thématiques qui savent qu'ils vont plaire au gouvernement, qui veillent justement à cette image. Donc des films comme on a pu le montrer, About Kim So-hee, qui est un peu plus indépendant, qui dénonce justement cette emprise des multinationales, etc. Eh bien, c'est un film qui ne sera jamais beaucoup montré parce qu'il dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. Et puis la réalisatrice n'est pas sûre de pouvoir retourner un autre film parce que ce film-là était beaucoup plus trop pernicieux. Donc voilà, donc on a des Fast and Furious, on a des Tuches, on a des Astérix à répétition, mais à la coréenne là-bas, rien ne change d'un pays à l'autre finalement.
Il est bien évident que le cinéma coréen dont on vient de parler, c'est le cinéma de la Corée du Sud.
Oui.
On peut dire un mot du cinéma de la Corée du Nord ?
Oui, donc il y a eu donc la division officialisée en 47-48 avec les deux pays, on va dire, qui se sont créés, et puis la division franche en 53 avec la construction du mur, etc., qui sépare ces deux pays. Alors, il est incorrect d'y dire la Corée du Sud, en fait. La Corée du Sud dit Corée, parce que pour elle, le pays est toujours uni. Donc voilà, nous le précisons en tant qu'occidentaux, mais là-bas c'est la Corée en fait. Donc je veillais justement à dire dans mon ouvrage la Corée, parce que c'est ce qui correspond à l'esprit véritablement coréen. Mais effectivement, il y a la Corée du Nord, dont on sait très peu de choses, mais on sait quand même qu'il y a eu un cinéma. Et en fait, les deux leaders successifs adoraient le cinéma, et puis c'était un parfait outil de propagande. Donc il y a eu différents âges d'or en Corée du Nord, avec des films qui ont été faits, mais qui sont foncièrement de propagande. Mais qu'est-ce que la propagande? La pire pour moi, c'est Disney et Marvel qui inculquent tout le code nécessaire, qui nous apprend en tant que petite princesse à aimer le prince. Non. En tant que jeune femme mineure à aimer le prince charmant majeur, bref, non, je m'égare totalement. Le cinéma du Nord est un cinéma assez propagandiste parce qu'on va véhiculer une image, on va montrer que tout le monde chante de bonheur dans les rizières au nom du grand leader, etc. Ce n'est pas un cinéma extrêmement intéressant. Il y a une partie qui est visible, en fait, il y a la Corée du Sud, il y a quelques années, qui ont mis en ligne 190 films légalement et gratuitement avec des sous-titres anglais, du cinéma fait entre 1930 et les années 2000, donc ils sont disponibles. Et du coup, les Coréens du Nord ont fait la même chose. Ils ont mis à disposition 100 films qu'on peut regarder légalement, gratuitement, avec des sous-titres anglais sur YouTube. Donc j'ai regardé les 100 films, j'ai malheureusement rien vu de bien bon. C'est des objets de curiosité qu'il faut savoir replacer, mais autant dans d'autres pays comme la Mongolie ou le Vietnam où il y avait cette même mainmise, où c'était un cinéma d'État, là j'ai vu des vrais auteurs. En Corée du Nord, il n'y a personne qui arrive à contourner, quoi. Donc, vraiment, c'est une curiosité. Et ces dernières années, il n'y a plus que trois ou quatre films qui sont tournés. Beaucoup de comédies, mais ce n'est pas très intéressant dans son ensemble.
On va mettre un terme à cet entretien, même si on regrette de ne pas pouvoir le poursuivre. Mais je voudrais que vous nous donniez cinq titres de films coréens que les personnes qui s'intéressent au cinéma, mais qui ne connaissent pas bien le cinéma coréen, devrait voir, devrait entre guillemets bien sûr.
Ça, c'est horrible parce qu'il y a plus de 8 750 films qui ont été tournés, mais pas autant qui soient évidemment disponibles. Non, je vais tricher un tout petit peu si vous permettez. Je vais donner des noms de réalisateurs dont les filmographies sont extrêmement éclectiques et qui ont des chefs-d'œuvre, donc c'est très bien de commencer par là. Il y a évidemment Bong Joon-ho qui a fait Parasite, mais aussi des chefs-d'œuvre comme Memories of Murder, The Host, Okja, qui est sur Netflix, si on veut s'aventurer sur Netflix. Il y a Park Chan-wook, l'homme derrière Joint Security Area, Old Boy, Mademoiselle et Decision to Leave. Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Kim Ji-woon, qui vient de sortir sa tournée à Séoul, qui n'a pas très bien marché, qui a fait d'autres chefs-d'œuvre qui sont largement disponibles, comme Fool King, Bittersweet Life, Le Bon, la Brute et le Cinglé, J'ai rencontré le Diable, voilà, qui sont considérés vraiment comme des chefs-d'œuvre par beaucoup, beaucoup de gens. Et dans un cinéma plutôt d'art et essai indépendant, même si ça ne veut rien dire, je citerai Lee Chang-dong, c'est le réalisateur de Burning, Poetry, Oasis, Peppermint Candy, voilà, c'est que des chefs-d'œuvre, que du bon. Secret Sunshine, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré devant ce film. Et le dernier, c'est Kim Ki-duk, dont nous avons montré L'île et Locataire, qui a tourné une vingtaine de films. Donc voilà, ça c'est des bonnes bases, parce que vraiment, c'est du cinéma foncièrement différent, très éclectique, donc on va pouvoir trouver ses goûts. Vous les trouvez assez facilement, vous vous ferez votre avis, et à partir de là, vous commencez à googler d'autres réalisateurs et des choses qui soient disponibles largement en France et puis par ailleurs.
Pour approfondir la connaissance du cinéma coréen, le livre Hollywood,
Tout à fait.
le cinéma coréen de Bastien Merizon, que je remercie d'avoir accepté de passer quelques instants en notre compagnie.
Merci de votre curiosité et de votre écoute.